Saint-Joseph, le 30 avril 85.
Elle avait reçu de personnes qui avaient été à Méglujorbet l'apparition de la Sainte Vierge le jour de Pâques. Des personnes qui n'avaient pas pu assister à l'intérieur, qui sont restées à l'extérieur. Et qui ont vu pendant 20 minutes, ils étaient 60, la danse du soleil, comme à Fatima. Alors évidemment, ça l'a beaucoup frappé, je comprends du reste. La danse du soleil, vous savez, Fatima et Paul VI. Puisque Paul VI a eu aussi cette vision. Ce qui faisait que le Saint-Père était si lié à Fatima. Alors il y a eu, et le lendemain aussi, le lundi de Pâques. Et elle venait de savoir hier qu'en Italie, à Tréfontaine, le jour de l'anniversaire des apparitions de Tréfontaine, vous connaissez les apparitions de Tréfontaine, Tréfontaine, ce communiste qui voulait assassiner Paul VI, je crois que c'est Paul VI ou Pie XII, je ne sais plus, ça n'a pas d'importance, un pape. C'est le communiste qui voulait assassiner Pie XII et qui a été pris, saisi par la Sainte Vierge, là. S'est converti complètement. Il avait, au dire de Sœur Marie, c'est mes sources, parce qu'elle la connaît très bien, le connaît très bien, très amie avec lui. Elle avait déjà acheté son poignard. Donc, il était déjà un peu dans l'ordre de l'exécution. Il avait acheté le poignard. Et alors, l'anniversaire, cette année-ci, je ne sais plus que c'est quand exactement, mais c'est pas très loin, c'est il y a 3 semaines, je crois. Là encore, toute une série de pèlerins ont vu de nouveau la danse du soleil. C'est curieux. On ne doit pas s'affoler, hein. Parce que tous ces personnes qui ont eu cette danse du soleil, alors j'ai dit la fois prochaine, ce sera à Curière et à Saint-Jodard en même temps. Cette danse du soleil fait que ceux qu'ils l'ont vu tous, avait une présence du Christ dans sa gloire étonnante, de joie, pas du tout de frayeur, de très grande joie. Et tous sentant que le Christ va venir bientôt. C'est évident, c'est des signes un peu apocalyptiques, hein, ces choses-là. C'est évident que Fatima nous fait entrer dans quelque chose d'assez apocalyptique du retour de Jésus. Et alors, cette espèce de proximité, si vous voulez, alors je vous transmets ça, hein, parce que je crois que c'est évidemment, la presse ne dira rien, n'est-ce pas ? Mais ça, c'est directement par les personnes qui l'ont vu. Donc, ce n'est pas du tout des on-dit. Ce n'est pas les on-dit. Les saintes femmes disent que, vous savez, au début de matin de Pâques, c'est un peu plus que ça. Parce que parmi ces pèlerins, il y avait des hommes. Hein. Et donc, on peut porter crédit. Il y avait quelque chose qui était un peu plus, qui avait quelque chose qui donnait une certaine sécurité. C'est très curieux. Qu'est-ce que ça veut dire, ces signes dans la providence de Dieu? Et c'est d'autant plus curieux que ces signes donnent une espèce de très grande joie, de très grande libération à l'égard de tout le passé, et sans du tout annoncer des choses terribles. Beaucoup d'apparitions annoncent des choses terribles, tandis que là, au contraire, c'est très très paisible, Alors, il faut, je crois, s'en servir, c'est du reste pas mauvais, de se mettre dans cette attitude du retour du Christ. Hein. Ça fait partie essentielle de notre vie chrétienne. Le bientôt de Dieu n'est pas notre bientôt, comme disait Marthe, il ne faut jamais l'oublier. Et donc les apparitions ou ces signes du ciel sont des signes qui nous montrent que nous vivons quelque chose d'assez extraordinaire. Nous le savons bien. Nous voyons suffisamment de signes pour nous faire comprendre qu'on vit un temps particulièrement dense, en lutte. Le démon est un peu déchaîné. On le sait bien. Il est déchaîné autour de la communauté, il est déchaîné dans la communauté. C'est sûr, alors j'espère que la Sainte Vierge donnera la compensation. Ce serait extraordinaire, oui. Ce soir, on téléphone à Sœur Marie, toute la communauté a vu le soleil danser. Alors, je ne sais pas ce que dira Sœur Marie, elle sera jalouse que ce n'est pas un curieux. Alors, tombez pas dans l'imagination de voir le soleil danser. Il faut qu'il y en ait beaucoup. Alors, s'il y en a beaucoup qui voient ça, il y a des chances que ce soit quand même quelque chose d'objectif. Mais ce sont des signes. Et on ne doit pas s'appuyer sur les révélations privées comme on s'appuie sur la révélation de Dieu. Donc les apparitions de la Très Sainte Vierge sont toujours soumises aux apparitions du Christ, ce qui est normal. Les signes apocalyptiques qui se font dans le soleil, ça c'est très curieux. C'est sûrement des signes importants du retour du Christ. Ça, tout de suite, quand ça touche le soleil. C'est bien évident. Et donc, c'est pour nous mettre dans cette attitude. C'est du reste très bon pour se préparer à la Pentecôte. Parce que je crois que c'est la grande manière de se préparer à la Pentecôte. C'est de comprendre que l'Esprit Saint doit travailler notre cœur, doit être celui qui nous purifie tout le temps. Je vous l'ai dit, toutes les apparitions de Jésus après la résurrection, toutes impliquent des purifications. Toutes. Pour renouveler le cœur de l'homme. Nous l'avons vu rapidement, et je crois que suffisamment pour que vous puissiez comprendre. Si les apparitions de Jésus après la résurrection implique des purifications, les apparitions de Marie demandent toujours la prière. Toujours. Donc, priez. Et priez le plus que vous pouvez. Et si l'Esprit Saint vous réveille la nuit, mais priez un peu la nuit. C'est bon. Certains frères le font, vous savez bien. Et c'est très bien. Alors, il faut évidemment avoir la permission. Hein, parce que si vous faites ça sans permission, vous risquez de vous fatiguer trop. Et puis alors, le pauvre médecin sera là pour ramasser les défaillances. Mais autrement, si on est poussé à cela, c'est bien, parce que je crois que ça dessine les plus authentiques et les plus profonds. Et c'est la seule manière de répondre aux démons, c'est de prier. La Très Sainte Vierge écrase la tête du démon en priant. Et nous avons à être très attentifs, parce que nous sentons bien que le démon est particulièrement éveillé. Et autour de nous, je ne peux pas vous dire certaines choses, mais je le sens bien, et je le sais, pertinemment, je le vois. À part que je vois le démon, maintenant ne craignez pas, mais que je vois qu'il y a des attaques du démon qui sont très nettes. C'est assez normal, hein, c'est des signes comme ça, précurseurs de la venue du Christ. C'est très normal que le démon soit déchaîné comme il n'a encore jamais été. Et Sœur Marie me disait que dans des forteresses comme Bethléem, qui sont des forteresses de prière, on ne peut pas nier, le démon était très déchaîné. ces temps-ci. C'est pour ça que je suis resté un peu plus longtemps pour lutter et pour aider. Parce que c'est vrai que le démon, il a assez déchaîné. On le sent bien. Alors, il faut être particulièrement vigilant par la prière, par le sacrifice et la pénitence. Puisque c'est toujours ce que la Vierge Marie demande. Je ne vous demande pas de jeûner au pain et à l'eau, sûrement pas le mardi et le vendredi. C'est sûrement pas ce que la Sainte Vierge vous demande. Ça, j'en suis sûr. Vous ne le feriez du reste que dans l'obéissance, mais sûrement pas. La Sainte Vierge veut que vous travailliez intellectuellement, si vous le pouvez, manuellement, si on vous le demande. Et si le travail intellectuel vous fatigue de trop, alors faites le travail manuel. Et quand le travail manuel vous fatiguera trop, vous reviendrez au travail intellectuel. C'est comme ça que ça se fait. Et c'est ça que ça doit se passer, le flux et le reflux. Mais il faut travailler. Il faut avoir des mœurs de travailleurs. C'est tellement important, ça. Des mœurs de travailleurs, c'est-à-dire ne pas perdre de temps. Tout dilettantisme n'est pas du Saint-Esprit. Ça, il faut à tout prix comprendre ça. Quand Jésus purifie le travail de Pierre, quand Jésus glorieux purifie le travail de Pierre, Pierre pendant toute la nuit n'a rien pris. C'est extrêmement douloureux pour Pierre, éprouvant. Quelqu'un qui connaît son métier et qui avait embauché quelques apôtres et s'apercevoir qu'on ne prend rien. Pas commode du tout. Jésus fait ça, non pas du tout pour dire plus de travail, hein. Non, pour que Pierre comprenne qu'il est pris à un autre travail. Comme nous, nous sommes attelés tous à un autre travail, que le travail qu'on faisait avant. Si on était dans les banques, si on était dans des travaux manuel, le Seigneur nous demande autre chose. Il nous demande notre travail intellectuel. Si on peut le faire, si on est fatigué, qu'on demande la dispense. Mais si on peut le faire, qu'on le fasse. Vous savez, on n'a pas trop de temps de se mettre sérieusement à la philosophie, parce que je crois que c'est bon, et que c'est ce qui nous est demandé par le Saint-Père. La recherche de la sagesse. Parce qu'on aura tellement peu de temps pour le travail théologique. Tous ceux qui terminent leur théologie voudraient bien continuer un peu plus longtemps. Et tous ceux qui ne peuvent pas approfondir leur théologie, très vite s'aperçoivent qu'ils sont un peu à bout de souffle. C'est très vrai qu'on nous demande, vous le savez bien, de façon impérative dans des lieux divers. Moi, j'espère avoir un tout petit peu de recul, et on ne pourra pas avoir ce recul tout de suite, sûrement pas. Parce que je crois qu'on n'a pas le droit de refuser quand on vous demande impérativement, d'une façon très très forte, de venir. Et qu'on voit la possibilité, même si c'est difficile. Alors, il faut se préparer à ce travail apostolique. Et on se prépare à ce travail apostolique par le travail intellectuel. Et un travail intellectuel fait sérieusement est un travail qui fatigue plus que n'importe quel autre travail. Parce que ça c'est fatigant. C'est fatigant de travailler Hegel, quand on doit le faire. C'est fatigant de travailler Aristote. Quand on essaie de travailler, c'est fatigant de s'y mettre et de travailler saint Thomas. Donc, il faut s'y mettre, suivre un cours de métaphysique, ce n'est pas de tout repos. Si on veut le suivre, hein, parce qu'on pourrait très bien être passif, mais si on veut le suivre activement, c'est-à-dire en le pensant, et puis s'il y a des questions, on les pose. S'il y a des questions ou des choses qu'on ne comprend pas, on les pose pour qu'on soit actif dans ce travail. Donc, il faut acquérir ces mœurs. Et ça, ça se sent tout de suite. Il faut les acquérir parce que Jésus nous le demande. Il faut travailler non pour le pain matériel, mais pour le pain que Jésus nous donne, que le Père nous donne. C'est-à-dire pour l'Eucharistie. Un travail chrétien est finalisé par l'Eucharistie. Puisqu'on offre la matière du sacrifice, en offrant l'œuvre de notre travail. Et c'est cette œuvre qu'on doit offrir et donner à Jésus, pour que ce soit à lui et qu'il le transforme en son corps et en son sang. C'est ça qui est si merveilleux. Une fois qu'on a compris ça, on veut offrir tous les jours, autant qu'on le peut, le fruit de son labeur. Alors évidemment, on n'a pas quelque chose de tangible tous les jours, on a son travail, et on est attaché à ce travail, et on essaie de le faire le mieux possible, c'est-à-dire de creuser le plus profondément possible sa philosophie. Pas se contenter, vous voyez, d'un travail un petit peu extérieur, pas se contenter de se faire de fausses synthèses, pas se contenter de connaître. Il faut que ces études spéculatives nous conduisent à une purification de notre intelligence. Et si on ne le fait pas pendant les études, on ne le fera jamais. C'est un temps unique, ça. Alors, il faut essayer, il faut supplier la Très Sainte Vierge et l'Esprit Saint de nous apprendre à creuser toujours davantage. Oui, je crois que c'est cela que Catherine de Sienne doit nous apprendre. Ça fait partie de la grâce de Saint Jean. Et Catherine de Sienne demeure pour nous une sœur. J'en suis très content, doublement sœur pour moi, vous voyez. Et c'est vrai, parce que Catherine de Sienne, nous devons l'aimer profondément. Et elle doit nous faire comprendre ce que nos sœurs nous apportent. Par Catherine de Sienne, on doit comprendre ça. Elles ne sont pas toutes des Catherine de Sienne, hein, mais il faut souhaiter que parmi elles, il y aura des Catherine de Sienne. C'est-à-dire qu'il y aura de vraies contemplatives, qui auront soif de vivre pleinement et totalement de la parole de Dieu. Et ça, ça dépend de nous. Très curieux. Parce que Dieu nous donnera à nous et aux sœurs les grâces de contemplation dans la mesure où, justement, nous répondrons à ces appels. Si nous ne répondons pas à l'appel de Dieu, non. Nous ne pourrons pas aller plus loin. Et nos sœurs ne seront pas contemplatives. Et Dieu nous donne ça, une espèce de miséricorde merveilleuse. Il faut comprendre ce que ça représente comme miséricorde, de pouvoir avoir tout près un petit noyau de petites sœurs qui se donnent entièrement à la contemplation, qui cherchent à se donner totalement à la contemplation. On doit respecter leur silence, on doit respecter leur désir de silence et comprendre que cette présence spirituelle est pour nous un apport et un appel. Alors, demandez à Sainte Catherine de Sienne, ceux parmi vous qui connaissent Sainte Catherine de Sienne, ceux qui ne connaissent pas encore, un jour ils connaîtront. Il faut tous avoir lu quand même le dialogue et les lettres pour voir comment une sainte femme peut parler au pape. Hein ? N'imitez pas, parce que vous n'êtes pas une sainte femme. Alors, n'imitez pas, parce que je crois qu'on ne peut pas imiter les lettres de Catherine de Sienne au pape. Mais elles sont bien envoyées, parce qu'elles sont des lettres d'une sainte. Et alors, elles sont des lettres qui, où il y a un amour extraordinaire, et quand il y a un très très grand amour, on peut dire alors tout ce que le Seigneur nous fait dire. Catherine de Sienne était sûrement inspirée. Elle avait un souffle qui venait de l'Esprit Saint. Il ne faut pas dire comme certains, Catherine de Sienne avait un bon directeur spirituel, donc elle ne faisait que transmettre ce qu'un directeur spirituel disait. Comme ce directeur spirituel était un dominicain, donc elle transmettait la doctrine. C'est pour ça qu'on a chez Catherine de Sienne une mystique, docteur de l'Église. Elle transmet ce que son directeur, Raymond Capou, pouvait lui avoir transmis. Et je crois que quand on dit ça, on n'a pas du tout compris Catherine de Sienne. Catherine de Sienne vivait du Christ. Vous le savez bien. Ce petit phénomène si extraordinaire, charismatique, et en même temps, je crois, d'ordre de la grâce substantielle. Quand Catherine de Sienne a eu pendant plusieurs jours, comme son cœur, qui était transformé par le cœur du Christ. Elle vivait, autrement dit, d'une façon mystique, ce que la communion doit réaliser, ce que l'Eucharistie doit réaliser, le cœur eucharistique du Christ qui nous est donné pour changer notre cœur et faire que notre cœur soit un avec le cœur du Christ. Et Catherine a vécu cela. Et Catherine de Sienne et Catherine de Ricine, les deux Catherine qui sont dominicaines, et Catherine de Ricci, c'était avec le cœur de la Vierge Marie. Il y a eu le même phénomène. Le cœur de Catherine de Sienne, à la place de son cœur, c'était le cœur de Jésus. Et Catherine de Ricci, à la place de son cœur, c'était le cœur de Marie. Catherine de Ricci, ce n'est pas édité, mais il y a des quantités. C'est très riche, alors à Rome, c'est gardé dans les conserves, les conserves de sainteté, des saints de l'Église. Alors on garde tous ces manuscrits qui ne sont pas édités. Mais c'est le cardinal Philippe qui avait pu accéder à ces manuscrits quand il était au Saint-Office et qui m'avait dit à ce moment-là, c'est extraordinaire, c'est peut-être trop beau pour être édité. C'est quand même quelque chose de si étonnant, si merveilleux. Vous savez bien, quand il y a trop de merveilleux, Rome ferme les portes. On a toujours très peur. On comprend qu'on ait peur de choses assez merveilleuses, trop merveilleuses, parce qu'on risque de s'accrocher à ça, on risque de s'arrêter à ça. Alors, on s'arrête au sensible. Yvonne Aimé, hein, tout proche de nous, Yvonne Aimé, il y avait des choses si étonnantes et si merveilleuses qu'à Rome, ils ont dit « arrêtons, n'allons pas plus loin ». Et on a arrêté son introduction à sa béatification. Parce que c'est trop, trop merveilleux. Ça va reprendre, je crois, parce que maintenant, le contexte est un tout petit peu différent. Alors on va reprendre sa cause de canonisation. Mais c'est vrai que Catherine de Ricci, il y avait des choses étonnantes, et Catherine de Sienne aussi. Catherine de Sienne, ce qui nous impressionne pour nous, c'est son amour du Sacré-Cœur, son amour du cœur blessé de Jésus. Je crois qu'il faut tout le temps revenir à ça, dans son dialogue, hein, relisez ce passage si beau, si étonnant, si merveilleux, quand Catherine interroge le Père. Comme une petite fille peut interroger son Père, avec toutes les audaces, sachant très bien que le Père ne peut que répondre à la demande de sa petite-fille bien-aimée. Et Catherine demande pourquoi le coup de lance. C'est une chose impressionnante, ça, quand on essaie de le vivre comme Catherine a dû le vivre. Pourquoi le coup de lance? C'est aussi très beau, vous voyez, pour une théologie mystique, d'interroger l'Esprit Saint, d'interroger le Père, qui doit nous éclairer. Pourquoi le coup de lance? Il y avait eu déjà tellement de souffrances, tellement de douleurs. Pourquoi cette blessure? Et le Père répond, encore une fois, ça ne regarde pas directement notre foi, ça regarde notre dévotion au très grand sens, surtout quand on peut le mettre en parallèle avec l'évangile de Saint Jean. Et le Père répond, aucune blessure n'était mortelle. La seule blessure mortelle, c'est la blessure du cœur. Il fallait qu'il soit victime d'amour jusqu'au bout. Et il fallait donc cette blessure. Et c'est vrai, très étonnant, quand vous regardez attentivement, vous voyez, c'est là où les révélations privées doivent nous aider à mieux comprendre la révélation. Et donc on revient toujours à la révélation. Et quand on lit un mystique ou une mystique, on doit toujours la lire dans la lumière de la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu que nous contemplons et qui nous donne soif, qui nous permet d'aller jusqu'au bout. Alors, on voit bien, selon l'évangile de saint Jean, il fallait que Jésus offre librement sa vie. Il le fallait. Et donc, pour cela, il fallait mourir lentement la mort du crucifié. Aucune blessure n'avait été mortelle. Et donc, Jésus pouvait hâter l'heure de sa mort. La crucifixion mène nécessairement à la mort. Mais Jésus pouvait hâter l'heure de la mort. Et Jésus a hâté l'heure de la mort. Pour nous montrer qu'il offrait librement sa vie. Et c'est pour ça qu'on voit que les deux qui avaient été crucifiés avec lui n'étaient pas encore morts. Et par là, nous voyons bien qu'il a hâté l'heure de sa mort. Jésus a hâté l'heure de sa mort, et après sa mort, il pouvait y avoir une blessure mortelle, puisqu'il était déjà mort. Et il fallait cette blessure mortelle, selon l'ordre de la sagesse de Dieu, pour que nous comprenions l'état victimal, ultime et dernier, du cœur de Jésus. C'est son cœur blessé qui est la seule blessure mortelle. C'était la blessure d'un cadavre. Il fallait cela, dit le Père, pour qu'il soit victime d'amour, victime violente, comme une vraie victime, où tout est offert, où tout est brûlé, pas une goutte de sang, Jésus l'a gardé pour lui. Il faut que tout soit donné pour que nous comprenions l'intensité de son amour, pour que nous comprenions la signification du cri de soif. Et je crois que la blessure du cœur doit être liée toujours au cri de soif, pour que nous comprenions que c'est un appel. C'est un appel pressant. Et Catherine a compris cela, c'est peut-être le secret de toute sa vie. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit comme le grand secret de toute sa vie. C'est d'avoir été saisie par le cri de soif du Christ et la blessure du cœur. C'est quand on écrit ce qu'elle écrit, quand on voit comment le Père l'a éclairée, on comprend que c'est pour elle un sommet. Et c'est vrai que c'est un sommet. Le grand sommet de toute la révélation, c'est le cri de Jésus, j'ai soif, et le coup de lance. Le coup de lance exprime dans un geste ce que la soif exprimait par un appel. Mais c'est le même appel impératif de l'enfant qui a soif. De l'enfant du Père qui a soif et qui réclame et qui demande. C'est le cri de l'enfant vers le Père. Et Catherine a saisi cela pour comprendre en profondeur ce qu'était la contemplation. Être attiré par le Père, attiré par la blessure du cœur, être attiré d'une façon si forte qu'en répondant, on se cache dans la blessure du cœur. On est situé dans la blessure du cœur. On vit cette blessure du cœur. Vous voyez, c'est la révélation dernière de l'amour. Et la contemplation ne peut se faire que dans l'amour. Et donc, dans cette révélation ultime et dernière. Et c'est pour ça que c'est vraiment pour nous le lieu de notre contemplation. Et il faut y revenir tout le temps. C'est le lieu de notre contemplation, c'est, je dirais, c'est le seul lieu de notre contemplation. La blessure du cœur de Jésus et le cœur de Marie. Et donc le cœur de Marie blessé par la même blessure. Le cœur de Marie compatissant. Et le cœur de Marie compatissant, c'est justement le cœur de Marie blessé par cette même blessure. Alors on comprend pourquoi Dieu révèle à Catherine ce grand secret de la blessure du cœur, pour qu'il y ait dans le cœur de Catherine ce cœur si véhément et si ardent qu'il y ait un appel d'amour toujours plus fort. Parce que c'est ça qui la caractérise, elle est une flamme d'amour, elle est tout entière brûlée par l'amour. Il faut lui demander ce sens de l'amour, ce sens de la distance. Ce sens de la discrétion et de l'amour. Parce que c'est un des aspects aussi du dialogue où Catherine insiste beaucoup sur la discrétion. La discrétion, voyez ce que c'est. C'est de l'ordre de la prudence transformée par le don de conseil. C'est de l'ordre de la prudence transformée par le don de conseil pour qu'on soit toujours sur la crête. Parce qu'au nom de la prudence, quelquefois, vous savez, on éteint beaucoup la flamme. Au nom de la prudence. On dit, ah, que voulez-vous ? Je suis fatigué. Ah, que voulez-vous ? Cette vie est impossible. C'est un enfer. Alors, au nom de la prudence, on dit, tant pis, j'ai compris maintenant, il faut marcher mon petit bonhomme de chemin. Et quand on dit ça, ça ne va jamais très vite. On est assis sur un vieil âne. Pas plus, pas le petit d'un ânon, pas le petit d'une ânesse, hein. Non. On est assis sur un vieil âne. Alors quand on est assis sur un vieil âne, ça ne va pas très vite. Et on s'embourbe. Alors ça, c'est soi-disant la prudence. Ça arrête la flamme d'amour. La vraie prudence éclairée par le don de conseil, c'est cette prudence qui doit nous gouverner, c'est cette prudence que Jésus donne à Pierre, et qu'il nous donne dans la mesure où nous devons répondre à l'appel de Pierre, c'est justement cette prudence d'amour qui fait qu'on veut aller toujours le plus loin qu'on peut aller, sans réserve. Un religieux n'a pas de réserve. Une mère de famille n'en a pas beaucoup, surtout quand elle a beaucoup d'enfants. Elle ne peut pas en avoir beaucoup, c'est impossible. Et donc elle nous montre quelque chose de très important, ne pas avoir de réserve. C'est-à-dire tout donner chaque jour et reprendre tout le lendemain. Et refaire ses réserves par la nuit, dans la mesure où on peut les refaire. Et c'est vrai, je crois que c'est ça le problème de la discrétion. La discrétion de Catherine de Sienne, c'est justement discerner avec beaucoup de netteté toutes nos capacités d'aimer. Et vouloir aller jusqu'au bout de ses capacités d'aimer. Pour vivre en dépendance de l'Esprit Saint, pour vivre en dépendance de cet esprit de conseil, cet esprit d'amour. Il y a un autre aspect de Catherine de Sienne qui est aussi très beau. C'est la manière dont elle a un sens contemplatif du sang du Christ. Vous voyez, ça se rattache au cœur blessé. Vous savez ce qu'elle dit à propos du sacrement de pénitence. Catherine de Sienne dit que le sacrement de pénitence, c'est se baigner dans le sang du Christ. Évidemment, c'est symbolique, mais c'est réel. Ça symbolise le divin. Se baigner dans le sang du Christ. Quand on ne se baigne pas depuis longtemps dans le sang du Christ, il y a quelque chose en nous qui devient un tout petit peu rigide, un tout petit peu dur, un manque de charité fraternelle et un manque de soutenir ceux qui sont plus fragiles et plus pauvres. Se baigner dans le sang du Christ, hein, c'est ça la pénitence. Et ça, ça nous montre très bien, vous voyez, d'un point de vue théologique, et enfin, en même temps, avec une image très simple, ça montre bien que l'accusation de ses fautes n'est pas le principal. Catherine de Sienne, je sais bien que chez elle, l'accusation de ses fautes, ça ne veut pas aller très loin, mais vous savez, d'autre part, l'accusation de ses fautes est un appel à la miséricorde. C'est un grand appel à la miséricorde. Et l'accusation de ses fautes, c'est l'aspect matériel. Il faut le faire, c'est bien évident, et faire le mieux possible, mais c'est l'aspect matériel. L'aspect essentiel, c'est l'absolution, c'est-à-dire le don du sang du Christ, mystiquement. C'est la purification radicale de tout nous-mêmes. Et c'est ce que doit faire toute confession qui est une confession telle qu'elle doit l'être. C'est-à-dire une confession où on se nourrit du sang du Christ, on se nourrit de l'espérance, en sachant que nous devons coopérer au Christ. Et nous devons coopérer au Christ pour pouvoir vivre son mystère de la rédemption. Coopérer au Christ, non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui sont proches de nous. Alors nous avons soif de pouvoir coopérer, et nous le faisons grâce à ce sang d'amour qui nous est donné. C'est le sacrement de la plus grande miséricorde. Catherine a un sens très très étonnant, hein, des liens qui existent entre les trois vertus théologales et la très sainte Trinité. Ça aussi, c'est une très belle vision. C'est quelque chose de très beau et de très grand. Elle a ce sens très très fort. À la foi, c'est le lien. Par la foi, c'est le lien avec la lumière, avec le Verbe de Dieu. Et c'est vrai, saint Thomas le dit, mais Catherine le dit autrement, à sa manière, et elle montre que la foi, c'est la lumière du Verbe en nous, c'est la trace de cette lumière du Verbe en nous. La charité, c'est l'Esprit Saint qui nous marque de son amour. Et l'espérance s'appuie sur la miséricorde du Père. Et c'est la miséricorde du Père qui nous permet de vivre cette espérance. C'est très beau de voir ce lien entre l'espérance et le Père. De voir ce lien entre la foi et le Verbe de Dieu et la charité, le mystère. De l'Esprit Saint qui prend possession de nous et qui nous apprend à aimer et qui nous apprend à être source d'amour. Vous voyez, je vous le disais à propos de la prière sacerdotale du Christ. La prière sacerdotale, je veux dire, la charité fraternelle ne peut être victorieuse de tous les égoïsmes, de tous les replis sur nous, que dans la mesure où nous vivons la gloire que le Christ a demandé au Père et qui lui a été donnée, cette gloire divine, par où il est associé à ce mystère de l'aspiration de l'Esprit Saint. Et c'est à ce moment-là où l'exercice divin de la charité fraternelle peut devenir tout à fait divin et donc victorieux de tout ce que représente cet égoïsme ou cet orgueil. C'est en étant source d'amour, en spirant l'Esprit Saint avec Jésus, en nous donnant totalement, en devenant source de charité fraternelle. C'est par là que notre charité fraternelle est parfaitement victorieuse de toutes les oppositions que nous connaissons en nous, de jalousie, d'égocentrisme ou de concupiscence. C'est par là, c'est en devenant donc source de l'Esprit Saint, c'est étonnant, pour notre frère, source d'amour pour notre frère. Je crois qu'il faut demander à Catherine de Sienne, puisque nous devons l'aimer, que nous nous sommes mis sous sa protection d'une façon très particulière, nous devons demander à Catherine de Sienne de nous donner ce sens de la contemplation et d'essayer de vivre les éclosions de la foi, de l'espérance et de la charité unies à la très sainte Trinité, en passant par le cœur blessé de l'agneau et en vivant du cœur blessé de l'agneau et en vivant de son sang infiniment miséricordieux, mais qui est toujours donné en surabondance pour que nous allions jusqu'au bout. Alors nous devons demander cela, nous devons demander cette grâce à Catherine de Sienne, cette grâce d'être vraiment, pleinement et totalement des enfants du cœur blessé de l'agneau. Ce n'est pas pour rien que nous sommes ici tout près de Paray-le-Monial. Ce n'est pas pour rien que la fête de la Pentecôte, nous la vivons à Paray-le-Monial. C'est parce qu'il y a un lien, et ça, Catherine doit nous aider à le comprendre. Elle doit nous aider à le vivre. Elle doit nous aider à saisir cette espèce d'appel si mystérieux et si grand à la contemplation. Oui, ceci doit être fait avec d'autant plus d'amour que nous voyons cette danse mystérieuse du soleil. C'est sûrement pour nous comme un signe d'exigence de nous jeter le plus vite possible dans cette contemplation, dans ce qu'elle a de plus absolu. Et le Seigneur nous donnera ensuite la possibilité de la communiquer aux autres dans la mesure où il le voudra. Mais il faut d'abord chercher la contemplation pour elle-même, pas en disant « ça me servira ». Non, 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 pour elle-même. La contemplation est un absolu d'amour qui demande cela, exactement comme l'oraison. Je me souviens, il y avait un père dominicain, je ne dis pas c'est qui, parce qu'il est encore vivant, qui disait « après chacune de nos oraisons, il faudrait marquer toutes les grâces que nous avons reçues ». Ça nous servirait beaucoup pour la théologie. Vous voyez, ça, ce n'est pas tout à fait ce qu'il faut faire. L'oraison doit rester gratuite dans l'ordre de l'amour. Si quelquefois certaines lumières vous sont données, très bien, ces lumières reviennent du reste après et nous aident, surtout pour la théologie, et nous aident à mieux voir, à mieux saisir. Mais il faut comprendre que la contemplation doit être aimée pour elle-même et voulue pour elle-même selon tout notre désir d'en vivre le plus possible, d'aller le plus loin possible dans ce don à Jésus, en subissant cette attraction si forte de son cœur blessé et en le laissant nous prendre et nous mettre, nous placer dans son cœur blessé pour que nous puissions vivre pleinement de cet amour Je crois, vous voyez, que si nous sommes attentifs à quelqu'un comme Sainte Catherine, nous voyons tout de suite cette espèce de primat de la contemplation, cette espèce d'exigence de la contemplation, qui va avec la parole de Dieu, qui va avec l'Eucharistie. Alors le sens qu'elle avait de l'Eucharistie, puisque le sens, c'était d'une certaine manière l'Eucharistie qui lui permettait de vivre. Marthe a vécu cela avec une intensité visiblement beaucoup plus grande que Catherine de Sienne. Mais les deux étaient liés. Et vous savez combien la petite Marthe aimait Catherine de Sienne. Combien elle était liée à Catherine de Sienne. Tout étant très très différente. C'est pas du tout la même grâce profonde. Mais il y avait quelque chose de commun. Cette ardeur du don. Cette brûlure du cœur. Qui faisait que lorsqu'il s'agissait de Jésus, il n'y avait pas de mesure, on allait jusqu'au bout, on donnait tout. C'est ça, je crois, vous voyez, la sainte prudence, c'est d'aller jusqu'au bout quand on aime Jésus et quand on veut l'aimer. Et quand on ne soit pas vis-à-vis de Jésus dans une attitude de petit bourgeois qui se donne à moitié et qui garde le reste. Alors à ce moment-là, ça ne va pas du tout. Il faut au contraire entrer profondément en appel vis-à-vis de Jésus, entrer pleinement dans son cœur et lui dire que c'est ça notre vie. Et le demander pour nos frères, le demander pour tous ceux pour qui c'est plus difficile. Il faut demander les uns pour les autres, pour qu'il y ait cette unité si profonde. Catherine de Sienne doit nous apprendre les divines audaces de la vie apostolique. Et ça, c'est très grand. Elle le fait avec une telle générosité, un tel élan. Les divines audaces, il y a quelque chose de grand dans sa vie apostolique. Rien n'est petit. C'est peut-être ça qui est le plus étonnant. Le côté magnanime, vous voyez. Le côté magnanime de son cœur qui se jette dans la lutte, peu importe, mais ce n'est pas vu par le petit bout. C'est vu toujours par le point de vue extrême du cœur de Jésus qui l'attire. Et elle milite pour lui. Elle se donne jusqu'au bout pour lui.